Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Je suis ravie d'ouvrir cette exploration aujourd'hui parce qu'on s'attaque à un sujet qui est, comment dire, assez vertigineux.
Bonjour Evelyne. Et oui, je suis tout à fait prêt à décortiquer ça avec vous. C'est vrai qu'on a une sacrée pile de documents sur la table aujourd'hui.
Absolument. On a des écrits de Fraser, de Darwin, de Robertson Smith et bien sûr des textes fondateurs de la psychanalyse. Et l'idée, c'est vraiment de démêler tout ça ensemble.
Sans aucun jugement de valeur d'ailleurs. Le but, c'est pas de juger des peuples lointains, mais vraiment de voir comment la psychanalyse a utilisé ces données anthropologiques pour décoder notre propre inconscient.
Exactement. Alors, pour poser le décor, imaginons un instant une tribu primitive à l'aube de l'humanité. Son existence entière tourne autour d'un animal sacré. La présence de cet animal dicte absolument toutes les règles de vie sociale du groupe, de ce qu'ils ont le droit de manger jusqu'au choix de la personne avec qui ils peuvent se marier.
C'est là que ça devient intriguant en fait.
Complètement. La question fascinante qu'on pose à notre auditoire aujourd'hui, c'est comment des croyances tribales aussi anciennes peuvent-elles détenir la clé de la psychologie moderne ?
Et même la clé de l'origine de notre morale humaine, carrément. C'est le paradoxe de ces rituels.
Oui, parce que de prime abord, ça semble n'avoir aucun rapport avec notre quotidien.
C'est ça. Mais quand on s'y penche sérieusement, on réalise très vite qu'on ne fait pas juste de l'anthropologie de comptoir. Ces chercheurs majeurs ont mis en lumière que ces tribus, elles sont un miroir grossissant de notre propre esprit.
D'accord. Donc en décortiquant ces règles primitives, on comprend des mécanismes universels qui vivent encore en nous aujourd'hui.
Tout à fait. C'est la genèse du totémisme, du complexe d'Œdipe et de la naissance de la civilisation qu'on va aborder.
Alors plongeons directement dans le vif du sujet, le point de bascule, le concept central autour duquel tout ça gravite, c'est ce qu'on appelle le fameux totémisme.
C'est le mot-clé, oui.
Pour bien visualiser pour ceux qui nous écoutent, on ne parle pas juste d'avoir un animal fétiche peint sur un mur ou une tente, si je comprends bien.
Ah non, pas du tout. Le totémisme, selon les descriptions de Fraser et Reinach qu'on a dans nos sources, c'est vraiment l'épine dorsale sociale de nombreuses sociétés archaïques.
On parle de tribus en Australie, en Amérique, en Afrique, c'est ça ?
Exactement. Et le totem, dans l'écrasante majorité des cas, c'est un animal.
Quel genre d'animal ?
Ça peut être n'importe quoi. Un animal comestible, inoffensif, ou même un animal dangereux. Un aigle, un kangourou, un crocodile, parfois même une plante, mais c'est plus rare.
Et pourquoi cet animal précis ?
La nature de l'animal importe peu, en fait. Ce qui compte, c'est le lien. Les membres de la tribu sont intimement convaincus qu'ils descendent de ce totem.
Attendez, ils pensent vraiment descendre de l'animal ? Littéralement.
Littéralement. C'est pas un symbole. C'est considéré comme l'ancêtre commun et l'esprit protecteur du clan tout entier.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment un membre de la famille à part entière, avec un statut quasiment divin.
C'est exactement ça. Et de ce statut découlent deux règles d'or. Et quand je dis règles d'or, c'est d'une sévérité absolue.
La première règle coule de source, j'imagine.
Oui, la première, c'est qu'il est formellement, mais alors strictement interdit de tuer l'animal totémique.
Et encore plus de le manger, je suppose.
Exactement. C'est perçu comme un meurtre intrafamilial. C'est un tabou fondamental. Si quelqu'un le fait, on pense que l'univers entier va se venger par une maladie ou la mort.
Bon, jusque-là, la logique est claire. On protège la mascotte protectrice, on protège l'ancêtre pour qu'il continue de veiller sur nous. C'est du donnant-donnant.
Voilà. Mais c'est la deuxième règle qui complique tout.
1. L'exogamie, c'est ça ?
C'est ça, la règle de l'exogamie. Elle interdit catégoriquement d'avoir des relations sexuelles ou même de se marier avec une personne appartenant au même totem.
Attendez, je suis pas sûre de bien suivre.
En gros, si vous êtes du clan de l'ours, tous les autres membres du clan de l'ours sont considérés comme vos frères et sœurs, même si vous n'avez aucun lien de sang réel.
Aucun lien biologique, hein ?
Aucun. Mais vous devez obligatoirement aller chercher un partenaire dans un autre clan, genre le clan du loup ou de l'aigle.
Mais c'est fou, c'est justement cette deuxième règle qui me fascine. Elle crée une rupture totale de logique.
C'est ce qui a rendu fou les premiers anthropologues, oui.
Oui, je reprends mon analogie de la mascotte. Si je suis une grande fan d'une équipe de foot, je vais protéger les couleurs de l'équipe, c'est normal.
Bien sûr.
Mais jamais le logo de mon équipe va dicter avec qui j'ai le droit de me marier. Pourquoi un animal dicterait les relations matrimoniales ?
Et c'est la grande énigme. Au début, les scientifiques ont essayé d'expliquer ça avec des théories un peu terre-à-terre.
Genre quoi ?
Il y a eu la théorie nominaliste. Ils disaient, ces tribus ont juste besoin de noms pour s'organiser, pour faire des armoiries familiales et éviter la consanguinité.
Ouais. Ça semble un peu trop administratif, non? Une simple classification n'explique pas la terreur sacrée liée au totem.
Complètement. Alors Fraser a proposé la magie coopérative.
C'est-à-dire?
L'idée, c'était de dire que le clan du kangourou s'interdit d'en manger pour s'assurer qu'il y en ait assez pour les autres clans. Une sorte d'organisation économique préhistorique.
Pour gérer les réserves de nourriture. D'accord. Mais encore une fois, ça n'explique absolument pas la règle sexuelle de l'exogamie.
C'est exactement le problème. Aucune de ces théories ne tenait vraiment la route pour lier l'animal aux règles de mariage. Et c'est là que la psychanalyse est intervenue, en changeant complètement d'approche.
Et comment ils ont fait?
Eh bien, au lieu de regarder des tribus lointaines, la psychanalyse a détourné le regard vers un sujet beaucoup, beaucoup plus proche.
Qui ça?
Les enfants.
Les enfants. Ah, là, il va falloir m'expliquer le lien. Comment on passe d'une tribu primitive en Australie à un enfant dans sa chambre?
C'est fascinant. L'enfant, contrairement à l'adulte, ne met pas de barrière d'orgueil entre lui et l'animal. L'adulte se sent supérieur, rationnel.
Alors que l'enfant, il considère l'animal comme son égal, c'est ça?
Exactement. Il lui parle, il s'identifie à lui. Et c'est en observant ça, particulièrement les phobies animales chez les jeunes enfants, que l'indice décisif a été trouvé.
Ah oui, les fameux cas cliniques évoqués dans les textes de Freud. Le petit Hans, par exemple.
Voilà, le petit Hans est le cas d'école. Un garçon qui développe soudainement une phobie terrible des chevaux.
Au point d'être terrifié de sortir, non?
C'est ça. Il a une angoisse absolue qu'un cheval le morde. Et dans nos sources, on parle aussi du petit Arpad qui a développé une perversion, une obsession étrange pour les volailles.
D'accord, mais en quoi un enfant qui a peur d'un cheval nous aide à comprendre le totem?
Parce que l'analyse montre que l'enfant ne craint pas l'animal en soi. L'animal n'est qu'un substitut. Il y a un transfert psychologique qui s'opère.
Un transfert?
Oui. L'animal devient en fait le substitut du père.
Oh, waouh! Donc le cheval, c'est le père. Oh. Mais pourquoi un enfant voudrait transformer son père en cheval pour en avoir peur?
Ça nous amène au complexe d'Oedipe. L'enfant ressent ce qu'on appelle de l'ambivalence envers son père.
Des sentiments opposés en même temps?
Tout à fait. D'un côté, il y a de l'amour, de l'admiration, mais de l'autre, le père est un rival, une figure d'autorité. L'enfant a une terreur liée à la menace de castration ou de punition de la part de ce père tout-puissant.
C'est trop lourd à porter pour un cerveau d'enfant.
Exactement. Cette tension est insoutenable. Haïr ou craindre ouvertement la personne qui vous nourrit et vous protège, c'est psychologiquement impossible.
Donc, si je comprends bien, c'est comme si l'enfant utilisait l'animal comme un paratonnerre.
C'est une excellente image.
Le vrai père est trop vital, alors l'esprit redirige cette angoisse vers un cheval croisé dans la rue ou un oiseau pour protéger la relation père-enfant.
Vous avez tout compris. Le mécanisme est là. Et c'est exactement le même mécanisme dans le totémisme primitif. Le totem, c'est le père de substitution pour toute la tribu.
C'est brillant. Mais attendez, je fais une pause là.
Allez-y.
Si le totem n'est qu'un substitut du père, comment on applique la psychologie d'un seul enfant viennois à l'échelle d'une société entière, sur des milliers d'années? Il a dû se passer un événement originel énorme.
Et c'est là qu'on plonge dans l'hypothèse la plus spectaculaire de nos textes. Pour comprendre, il faut remonter à un événement préhistorique, brutal, conceptualisé par Darwin.
Charles Darwin.
Le père de l'évolution.
Lui-même.
Darwin a observé les sociétés animales et a postulé qu'à l'origine, l'humanité vivait en petite horde. Ce tyran accaparait absolument toutes les femmes du groupe. Et dès que ses fils grandissaient et devenaient des rivaux potentiels, il les chassait impitoyablement.
C'est d'une brutalité folle. Les fils se retrouvaient exilés, tout seuls.
Tout seuls, frustrés et pleins de ressentiment. Mais un jour, ses frères exilés ont fini par comprendre une chose simple.
L'union fait la force.
Exactement. Aucun d'entre eux ne pouvait battre le père seul. Mais ensemble, ils le pouvaient.
C'est la première rébellion de l'histoire.
La rébellion originelle. Ils se sont unis, ils sont revenus vers la horde et ils ont assassiné le père tyran.
Ils l'ont tué, ce qui met fin à la horde paternelle. Mais les sources mentionnent un détail encore plus glaçant. Ils ne se sont pas contentés de l'assassiner, n'est-ce pas?
Non. Il faut se rappeler qu'on parle de sauvages archaïques. Après l'avoir tué, ils ont accompli un acte de cannibalisme. Ils ont dévoré le corps du père.
Mais c'est terrifiant!
Si je peux me permettre une question analytique ici, s'il détestait ce tyran au point de l'assassiner, pourquoi le manger?
C'est la question centrale.
Est-ce que c'est juste l'acte ultime de destruction, genre effacé jusqu'à sa trace physique? Ou y a-t-il une volonté de s'approprier sa puissance? De, je sais pas, de devenir lui?
C'est exactement la deuxième option. Dans la pensée primitive, absorber la chair, c'est absorber les attributs. En le mangeant, ils s'identifient à lui, ils absorbent sa force colossale.
Ah, d'accord. Mais cet acte d'une violence inouïe, qu'ils pensent libérateur, va déclencher un séisme psychologique. une crise majeure qui donnera naissance ni plus ni moins aux premières lois humaines.
Une crise androuée. Mais pourquoi sans lit ? Ils ont gagné, ils sont libres.
C'est là que l'ambivalence dont on parlait pour l'enfant fait son grand retour. Le père n'était pas qu'un tyran détesté.
Il est aussi admiré.
Voilà. C'était un modèle, une figure protectrice. Une fois la haine assouvie par le meurtre, c'est le repentir qui a pris le dessus. La tendresse refoulée est remontée à la surface.
Ils ont été rongés par la culpabilité. C'est le remords du survivant en puissance 1000.
Un sentiment de culpabilité écrasant. Et c'est ce qui a provoqué ce qu'on appelle l'obéissance rétrospective.
L'obéissance rétrospective ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est le fait que le père mort devient psychologiquement beaucoup plus puissant qu'il ne l'était vivant. Les fils s'interdisent d'eux-mêmes ce que le père leur interdisait autrefois par la force.
C'est faux. Ils s'infligent à eux-mêmes la loi du père mort par pure culpabilité.
Exactement. Et c'est ici, à cet instant précis, que tout s'éclaire concernant le totémisme. Pour gérer cette culpabilité insoutenable, il remplace le père par l'animal totémique.
Et il crée les deux fameux tabous qu'on a vus au début.
Tout à fait. C'est le miroir exact de leur crime et du complexe d'Oedipe. La première règle, l'interdiction de tuer le totem.
C'est pour expier le meurtre du père. Ils se disent « plus jamais on ne tuera notre père de substitution ».
C'est ça. Et la deuxième règle,
l'exogamie,
le renoncement aux femmes du clan,
celles pour lesquelles ils avaient justement tué le père, ils s'interdisent d'en profiter.
C'est le renoncement aux fruits de leur crime. En instaurant l'exogamie, ils évitent aussi un autre désastre.
Ah oui, parce que s'ils s'étaient battus pour les femmes, après le meurtre, ils se seraient entretués par jalousie. La horde aurait disparu.
Exactement. Cette règle a sauvé le groupe de la destruction fratricide. C'est littéralement la naissance de l'organisation sociale et de la morale humaine. L'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste.
C'est incroyable, c'est la fondation même de notre société.
Et pour maintenir cet ordre social, il y a un rituel qui a été mis en place. Un rituel décrit par Robertson Smith, qui est une grande profondeur. L'institution du repas totémique.
Wait, le repas totémique ? Mais vous venez de dire qu'il était absolument interdit de manger le totem.
Oui. Toute l'année, c'est le tabou suprême. Sauf une fois par an.
Une fois par an ?
Une fois par an, le clan entier se rassemble. Ils enfreignent solennellement leur propre loi sacrée. Ils tuent l'animal totémique et ils le dévorent tous ensemble en commun.
Mais pourquoi enfreindre la règle qu'ils viennent de créer pour expier leur crime originel ? C'est contradictoire.
C'est pour réaffirmer leur union. Ce repas, c'est la répétition ritualisée du meurtre originel. Ils entretiennent le souvenir de leur triomphe commun sur le père.
Ah, c'est un peu la première soupape de sécurité de l'histoire, alors, hein ?
C'est une très bonne façon de le dire.
Une transgression contrôlée pour purger la tension d'un crime originel. Et au passage, ça invente le droit à la structure familiale.
C'est tout à fait ça. Et la cérémonie suit un déroulé émotionnel très strict. D'abord, il pleure l'animal mort. Il le pleure bruyamment. C'est le deuil et la culpabilité.
Et ensuite ?
Ensuite, une fois consommé, le deuil laisse place à une fête immense, une allégresse totale.
D'accord. Donc, quand on prend un peu de recul sur tout ça, on se rend compte que ce système archaïque, c'est vraiment pas juste une curiosité de musée.
Loin de là.
Ça a carrément jeté les bases de nos structures psychiques modernes.
C'est la grande conclusion de toutes ces sources. Le totémisme, ça permet à la psychanalyse de faire le pont entre la psychologie individuelle, donc le complexe d'Oedipe, l'ambivalence envers le père qu'on voit chez l'enfant, et la psychologie des foules.
La fondation de la société, quoi.
La société, les restrictions morales, le droit, et bien sûr, la religion.
Et ça nous amène d'ailleurs à une pensée finale qui est franchement hyper provocatrice.
Oui, c'est une observation marquante de Robertson Smith et de Fraser.
Quand on regarde cette cérémonie du repas totémique, le fait de prendre une entité sacrée, de la tuer de manière rituelle, de la pleurer, puis d'être en communion pour consommer cette entité et assimiler ses vertus...
Cette mécanique n'a pas disparu.
Pas du tout. Elle a survécu à travers les âges. Elle se retrouve, à peine travestie, dans les fondements même de nos religions modernes.
On pense forcément au rite de la Sainte Communion chrétienne, par exemple.
Exactement. Consommer symboliquement le corps d'une figure divine pour faire corps avec elle. C'est une invitation assez vertigineuse pour notre auditoire. Regarder les rituels contemporains sous ce jour nouveau, se dire que l'écho de cette tribu primitive résonne encore.
Ça donne vraiment matière à réflexion.
Énormément. C'est une porte ouverte que l'auditeur pourra continuer à explorer, de son côté. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi.
Avec grand plaisir.
Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt.